Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux, jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin, et puis juste après ce sera l'automobile, comme tous les dimanches. Je sais que vous attendez ce rendez-vous aussi avec impatience. 8h-10h, Jean-Luc Moreau sera là, répondra à toutes vos questions auto. On parlera tout à l'heure des vendeurs d'automobiles un peu, on va dire, particuliers, comme par exemple les mandataires. Il y a même aujourd'hui le web, hein. Par exemple Amazon et Seat ont proposé une offre assez intéressante. On a acheté carrément sa voiture sur Amazon. Voilà, c'est assez drôle.
Ça me viendrait pas à l'idée, mais...
Et oui, mais on verra les avantages et les inconvénients quand ce genre d'offre tout à l'heure. Et puis ça sera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com. Mais là, nous sommes au cœur de notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, Laetitia, nous allons parler de chats, on va parler de perroquets aussi, on va parler d'ours, mais on va débuter par les...
renards.
Les renards.
Renards roux, que tout le monde connaît, bien sûr. Et ils seraient en danger en Moselle. Et nous sommes avec Franck Vignat, qui est réalisateur, animalier, je vais le dire, représentant du collectif Renard Grand Est, qui regroupe 44 associations de protection animale. Alors Franck, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le renard roux, que tout le monde connaît, est peut-être persona non grata en Moselle, c'est-à-dire qu'un arrêté préfectoral vient en effet d'autoriser le tir de nuit des renards sur 170 communes. Alors, quand on se dit, comment est-ce possible? Parce que ce n'est pas un gibier. Et puis, je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il est protégé comme le loup.
Alors, si, c'est déjà une espèce gibier, mais en plus de ça, c'est une espèce nuisible. Donc nuisible, ça veut dire
gibier
peut
dans le sens, on ne va pas le manger quand même, le renard.
Ouais, il y a des régions en France où on le mange en civet, mais c'est assez anecdotique. Mais,
du civet de renard.
Tiens, alors ça, j'avais jamais entendu.
C'est rare, mais ça se fait. Ah ouais. On comprend bien que c'est pas la raison la plus importante pour laquelle il est chassé. Donc il est classé nuisible, donc ça veut dire qu'on peut le détruire toute l'année, même en période de reproduction des jeunes. On peut le piéger, donc avec des pièges mutilants et donc voilà, couplé à ça, maintenant le préfet de Moselle a eu la bonne idée de pouvoir autoriser les tirs de nuit.
Les tirs de nuit, c'est incroyable ça. C'est quand même dangereux.
C'est pas dingue.
Alors c'est dangereux, les chasseurs diront que non. Nous on souligne quand même la dangerosité de ces tirs. Ceci étant, c'est des agents assermentés qui peuvent le faire, donc des lieutenants de louveterie et quelques personnes désignées par le préfet.
Bon, alors mais qu'est-ce qu'on lui reproche au renard roux? Pourquoi, en quoi est-il nuisible justement?
Alors en quoi est-il nuisible? On se demande bien. Pour classer une espèce nuisible, il faut qu'il y ait plusieurs raisons. Le problème, c'est que les raisons invoquées, au final, on se rend compte que ça tient pas du tout la route.
Dites-moi.
Pour être nuisible, il doit transmettre des maladies. Alors, la rage a été éradiquée depuis plus de 15 ans en France.
C'est sûr.
Donc, on peut plus parler de maladies. Il faut qu'il commette des dommages à la faune et à la flore. Donc, c'est un prédateur autochtone, donc on comprend pas bien comment il peut faire des dommages à la faune et à la flore.
Peut-être qu'il rentre en concurrence avec les chasseurs concernant le gibier à plumes, les faisans.
Oui, ça, on va pas l'écrire sur un arrêté préfectoral, mais concrètement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. En Moselle, ils ont relâché 10 000 faisans sur 10 000 hectares, et le renard est susceptible de prélever une infime partie de ces espèces-là, destinées à la chasse, hein, bien évidemment.
Mais vous avez, vous dites infime, il faut quand même des données. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que s'il y a beaucoup de renards, il y aura moins de faisans. Hein, et en plus, si on les relâche, voilà.
On est d'accord. Mais le renard, concrètement, lui, 80% de son régime alimentaire, c'est des petits campagnols. Maintenant...
des rongeurs.
C'est ça. Maintenant, c'est sûr que s'ils tombent devant des faisans qui ont été élevés en cage et qui sont lâchés dans des écosystèmes qu'ils connaissent pas, le renard est pas stupide, il va pas se priver, on est d'accord. Mais maintenant, c'est la loi de la nature. Je veux dire, si le faisan disparaît, c'est pas du tout à cause du renard, c'est à cause de la modification des milieux agricoles. Et en aucun cas, c'est pas le prédateur ne met pas en péril ses proies, quoi.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on invoque comme comme raison pour l'abattre?
Comme ben, c'est on parle d'échinococcus alvéolaire, donc de on invente entre guillemets des motifs. On parle d'une maladie qui est très rare, c'est 20 cas par an pour l'homme. Et en plus, on se rend compte que plus on tue les renards, plus la prévalence de cette maladie augmente.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, en fait, en éliminant trop de renards, on modifie les populations de renards.
Oui.
Les populations sont composées d'animaux plus jeunes.
Oui.
Et les jeunes animaux sont plus porteurs du parasite.
Alors, l'échinococcus alvéolaire, c'est un parasite qui peut se retrouver dans les selles des renards, mais pas seulement, aussi des rongeurs et aussi des chiens et des chats. Le mode de contamination, c'est simple, c'est si par exemple, le renard qui est contaminé souille par ses selles des baies ou des fruits des bois, et que vous venez dans les bois manger ces fruits, sans les laver, sans les cuire, etc., sans minimum d'hygiène, là, on peut attraper cette maladie. Bon, tout en sachant quand même on est revenu maintenant au niveau... Vous savez, c'est comme la rage. Quand il y a eu la rage des renards, on s'était dit pendant des années, il faut tuer les renards pour tuer la rage. Et on s'est aperçu qu'en tuant les renards, on ne tuait pas la rage, bien au contraire. Donc, on est passé à la vaccination des renards et on a résolu le problème de la rage en France. En ce qui concerne l'échinococcus alvéolaire, on est en train de faire des essais justement pour vermifuger les renards dans les zones sensibles, c'est-à-dire les zones il y a plus des régions où il y a le plus de cette maladie, et on sait, parce qu'on s'est aperçu que tuer les renards ne résolvait pas ce problème. De maladie.
Ça l'empire même.
Et ça empire.
Ah oui.
Et vous me dites
ça
même
l'empire.
Que ça l'empire. Donc je peux vous rassurer, enfin au moins vous pouvez le dire aussi au préfet, il y a en ce moment des essais de vermification de renards, justement avec des appâts, pareil. C'est comme la vaccination contre la rage. On disait pas aux renards, venez demain matin pour l'injection vaccinale, mais on envoyait des appâts avec le vaccin dedans. Et là, c'est des appâts avec le vermifuge dedans.
Ah oui.
Puisque on sait très bien vermifuger nos chats et nos chiens, et c'est les mêmes molécules, si vous voulez. Donc, oui, allez-y.
On l'a dit, on le dit au préfet, ça. Nous, on dénonce ça corps et âme, mais on n'est pas entendu, quoi. C'est ça le problème. Donc, on est obligé d'appuyer en disant maintenant, clairement, vous nous parlez de problèmes de santé publique avec l'échinococcose, mais c'est vous maintenant qui créez un problème de santé publique en augmentant justement les cas d'échinococcose. Et on est en train de travailler avec des scientifiques pour essayer maintenant de voir les départements qui ont autorisé les tirs de nuit et les modalités supplémentaires de destruction de renards, et de comparer ça au taux d'échinococcose transmise à l'homme, quoi.
Mais les populations de renards se portent bien?
Oui, alors toutes ces modalités, elles peuvent provoquer des petits crashs de population de renards, mais à très très court terme. C'est un animal qui s'adapte à tout, très vite et très bien.
Qui vient même jusque dans les villes.
C'est ça. C'est très très difficile de faire baisser les populations de renards. Très très difficile.
Alors, pourquoi les renards sont si importants? Parce que il faut mettre le côté positif aussi dans vos arguments. Pourquoi les renards sont si importants dans nos régions? Qu'est-ce qu'ils apportent à nos écosystèmes?
Alors, nous, on parle maintenant, on a dit le renard, une espèce plus utile que nuisible. Mais fondamentalement, c'est un peu stupide de parler comme ça. Parce que
déjà, moi, je trouve que, catégoriser les animaux en utiles et nuisibles, ça me choque, mais bon.
Voilà. Mais alors, nuisible, ça fait des années qu'on dénonce ce terme. Mais maintenant, si on n'est pas capable de prendre les animaux sauvages, communistes, avec leur statut d'animal sauvage, eh ben, tant qu'à faire, autant leur attribuer des adjectifs et les bons. Donc, le terme utile nous paraissait convenable. Alors, il est utile pour l'homme, entre guillemets, donc pour au niveau de l'agriculture, parce que c'est un animal qui va manger entre 6 et 10 000 rongeurs par an. Donc, on comprend bien
beaucoup.
Que pour les agriculteurs céréaliers, ça peut être une aubaine.
Et oui.
Plutôt que d'utiliser des produits chimiques qui seraient susceptibles d'impacter d'autres espèces.
Alors, que comptez-vous faire maintenant que l'arrêté a été signé?
Eh ben, on essaye de médiatiser un peu le truc, et grâce à vous, on y arrive. On essaye de faire entendre la voix du renard, de dire aux gens que le renard n'est pas l'espèce nuisible qu'on veut bien nous faire croire, que c'est un animal magnifique et qu'on peut plus se permettre de le détruire comme ça. Et donc voilà. En vérité, on n'a pas grand chose à faire. C'est les lois qu'il faut changer et
Mais on va y arriver petit à petit, vous savez, Franck.
J'espère bien. En tout cas, on se donne les moyens et on va aller sensibiliser les gens sur le terrain aussi. On a on a peu de portes au final, hein, mais.
Eh ben, il faut sensibiliser, il faut
merci
en parler.
Merci en tout cas, Franck.
Merci. Je rappelle que vous êtes représentant du collectif Renard Grand Est et vous êtes réalisateur animalier. Et je mettrai un lien sur de votre dernier documentaire sur le renard rouge.
Voilà, sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est un bel animal. Méconnu en plus, hein. C'est ça. 7h20, Laetitia, on revient dans un instant et on va sans doute évoquer ensemble l'association Au Bonheur des Chats.
Oui.
Voilà. Qui sont là en fait pour évidemment faire du bien aux chats et puis réguler les populations de chats, hein, des chats errants. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts, le 32-16 si vous voulez nous joindre ce matin. A tout de suite.
RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. N'hésitez pas à nous appeler ce matin, le 32-16 ou bien animaux@rmc.fr. Tout à l'heure avec Laetitia, on s'intéressera au perroquet gris du Gabon et puis on découvrira une exposition espèces d'ours jusqu'en juin prochain à la Grande Galerie d'évolution du Jardin des Plantes à Paris. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va découvrir l'association Au Bonheur des Chats.
Oui, et nous sommes avec Myriam Martin qui est présidente de l'association. C'est une association qui est située près d'Orléans, près de Rouen, pardon, pas d'Orléans, près de Rouen à Darnétal. Myriam, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Vous savez, ici, dans notre émission, on aime bien mettre en avant l'action des petites associations qui localement viennent en aide aux animaux. Alors, oui. Au Bonheur des Chats, c'est l'association que vous présidez, est située donc dans l'agglomération de Rouen. Elle vient en aide aux chats dits libres. Alors, les personnes qui ne connaissent pas les chats libres, ce sont les chats dits errants, bien
errants,
sûr.
Oui.
Voilà. Alors, quelles sont les missions de votre association ?
Alors, l'émission, justement, chat errant veut dire aussi chat errant, chat abandonné, surtout.
Eh oui.
Voilà. C'est pas spécialement des chats nés dans la rue, Voilà. Donc, le but de l'association, c'est la stérilisation et la puce électronique. Voilà.
C'est-à-dire
donc,
que
vous
capturez les chats, c'est ça?
Oui, on capture les chats. On les porte chez le vétérinaire. Ils sont stérilisés, pucés et remis sur les sites. Les sites, c'est-à-dire des endroits où les chats sont nourris.
D'accord. Bon, c'est-à-dire que... Et certains chats, vous les faites adopter aussi ?
Eh oui, parce que malheureusement, vous savez, quand les chats sont nourris, par exemple, dans des jardins, des personnes généreuses nourrissent les chats comme ça, mais quand ils sont abandonnés au pied, je sais pas, d'un parking de grande surface ou... moi je les remets pas, je peux pas remettre un chat s'il a pas un point de nourriture.
Bien sûr.
Donc je les prends et puis je les mets en adoption. Voilà.
Alors est-ce que vous travaillez main dans la main avec les communes ? Parce que normalement les chats dits errants, les chats libres, ce sont les communes qui doivent gérer les populations.
Oui, mais là ça assure pas beaucoup, madame. Pas beaucoup. C'est-à-dire, je peux dire le montant. Je peux dire le montant, ce que j'ai de la commune où j'habite.
Allez,
j'ai 285 euros.
Combien ?
285 euros
c'est
par an.
C'est pas énorme, oui.
Alors
c'est
que
pas énorme, ça stérilise trois femelles, même pas.
Mais vous savez que normalement, selon la loi, c'est la commune qui doit gérer les populations de chats.
Normalement, il faut se battre tout le temps.
Eh oui, on va se battre.
On va se battre. J'ai l'intention, là, parce que comme la loi est bien passée, ça commence à rentrer dans les mœurs. Là, je vais prendre rendez-vous et je vais me battre, comme tout le temps. Ça fait 20 ans qu'on se bat.
C'est-à-dire que les communes doivent chacune s'occuper des animaux errants, des chats libres, qui maintenant ont cette identité-là. Avant, on ne les appelait pas les chats libres. Mais la loi a fait qu'il existe des chats qui ne sont pas adoptables, mais qui vivent dans l'environnement d'une commune. Et la commune ne doit pas détruire ces chats, bien sûr, mais faire en sorte de gérer la population pour qu'ils se reproduisent pas. Et la plupart des communes qui sont conscientes du problème et qui s'impliquent vraiment passent des contrats avec des associations comme la vôtre.
Bah bien sûr, bien sûr. Ce qui serait bien, parce que vous savez, parfois on galère pour avoir les dons. On a des grosses factures tous les mois parce que moi je fais à peu près 300 stérilisations dans l'année.
Ah oui, c'est beaucoup.
Les ans.
Ah oui.
Et
beaucoup,
les vétérinaires avec qui vous travaillez vous font des prix, j'imagine.
Oui. Oui, heureusement. Enfin, Bon, voilà, c'est très bien ce qu'ils font, mais vous savez, c'est pas des petits prix, hein. C'est.
Bah oui, mais vous savez,
pour payer des factures de 3 000, 4 000 euros tous les mois de stérilisation et de soins, bah il faut des dons, hein.
C'est certain.
Mais c'est sûr, c'est sûr.
Et non, mais c'est généreux de leur part, hein. Vous savez, les vétérinaires comme ça, heureusement qu'ils sont là quand même, parce que c'est un sacré boulot.
Oui.
Et bon, bah il faut qu'ils gagnent leur vie aussi, hein.
Bien sûr. Bon. Alors, quand vous relâchez donc les chats libres, les chats errants, ils sont identifiés à votre association, c'est ça ?
Voilà, ils sont identifiés. Et de ça, souvent, des personnes trouvent des chats comme ça, parce que ces chats-là, parfois, se baladent un peu partout. Et des personnes m'appellent, ils ont porté l'animal chez le véto, ils ont retrouvé donc l'association, oui. Et ils veulent l'adopter.
C'est génial, ça.
Ah ben c'est super, et j'en ai beaucoup, c'est pour ça qu'il faut pucer. D'abord, c'est obligatoire.
Mais vous savez que les gens ne le savent pas que c'est obligatoire d'identifier son chat.
J'ai toujours fait avec l'association, j'ai toujours pucé les animaux, même de rue. Voilà, toujours.
Il faut. Et là, vous arrivez bien à réguler la population de chats, ou est-ce que des personnes abandonnent les chats l'été, par exemple ? Vous avez eu cet été ?
C'est une catastrophe cette année. Partout, hein, tous les refuges, tout ça, cette année, c'est une catastrophe. Là, en 4 jours, j'en ai rentré 2, 3 adultes et une femelle avec 3 petits.
Oh.
Alors, femelle abandonnée dans un local poubelle avec ses 3 petits dans un carton scotché, hein. Pas d'air, rien du tout. Hein. Oui, et 2 autres qu'on m'a appelés dans la commune, là, ils étaient sur une poubelle dehors, deux chats noirs, voilà. Mais c'est tout le temps, hein.
Vous pensez que les propriétaires de ces chats prennent pas leurs responsabilités, tout simplement ?
Non, pas du tout. Pourtant, quand même, moi, je dis, il y a des associations, maintenant, on fait des tarifs, quand les gens peuvent pas, moi, je stérilise, bon, voilà, et puis je me dis, il y aura pas de petits, donc c'est bien, quand même. Enfin, moi, j'aide au maximum, hein.
C'est bien pour ça qu'on parle de vous.
C'est gentil.
Bah oui, parce que vous êtes bénévole et puis vous travaillez avec des bénévoles, donc voilà.
Oui. Vous savez, ma vie, c'est tous les jours, hein, non-stop. Hein. Là, vous avez vu, je suis levée tôt, c'est non-stop.
C'est pour le bonheur de vos chats. Et justement, votre association s'appelle Au Bonheur des Chats. Donc, c'est près de Rouen, dans l'agglomération de Rouen.
Et encore bravo, Myriam, pour tout ce que vous faites.
Et encore bravo. Et vous avez besoin de dons. Vous avez besoin de familles qui accueillent ces chats. Vous avez besoin aussi de bénévoles. Donc, on mettra tous ces renseignements sur Facebook. Ça s'appelle Au Bonheur des Chats. Merci, Myriam.
Myriam, merci. Laetitia, on revient après la météo, les infos de 7h30. On va évoquer le perroquet gris du Gabon, qui est de mieux en mieux protégé.
Eh oui.
Et puis, on évoquera aussi une exposition étonnante qui rend hommage aux ours, et c'est à Paris. Le 32-16, animaux@rmc.fr pour nous joindre. On revient dans quelques instants, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC en ce dimanche matin. Écoutez, bienvenue. Merci d'être là. Jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous animaux. Comme chaque dimanche, Laetitia Barlerin m'accompagne de 6h à 8h. Et pour ceux qui savent, un petit peu plus tard, ce sera tout à l'heure l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui est d'ores et déjà là et qui consulte vos questions. Questions que vous pourrez lui poser tout à l'heure au 32-16. Laetitia, tout à l'heure, on va s'intéresser aux ours avec une expo à Paris.
Qui s'appelle Espèce d'ours.
Voilà.
Ce n'est pas une injure, hein.
Non.
Au contraire.
Un joli petit jeu de mots. On en parlera tout à l'heure avec le concepteur et muséographe de l'exposition qui sera avec nous. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser à un animal fascinant. C'est le perroquet gris du Gabon.
Alors, c'est le perroquet qu'on appelle le jaco, vous savez. C'est un perroquet tout gris avec des plumes rouges au niveau de la queue. Et c'est quand même le perroquet le plus vendu comme animal de compagnie.
D'accord.
Et son statut change. Ah. Et nous sommes avec le docteur Muriel Alnaud, qui est vétérinaire comportementaliste, spécialisé dans le comportement des perroquets. Alors, Muriel, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour François.
L'information est presque passée inaperçue. C'est vrai que en début de mois, la CITES, qui régit le commerce international des animaux sauvages, vient enfin de voter l'interdiction du commerce du perroquet gris du Gabon. Alors d'abord, pourquoi cette interdiction est-il vraiment menacé ?
Oui, il est très menacé. On a vraiment fait cette constatation dans les dernières 20-30 années parce que ces exportations qui ont été faites de perroquets sauvages ont pris beaucoup d'ampleur. Le perroquet intéressé pour en tant qu'animal de compagnie, étant donné ses capacités au langage, et du coup il a été assez maltraité et il y a eu beaucoup de décès de perroquets dans ces trafics.
Ah oui.
Parce qu'il était pris dans la nature en Afrique, et quand il arrivait en Europe, il était, la moitié était mort, quoi. Je dis la moitié, mais je
beaucoup
pense que c'est
mort, beaucoup étaient incapables de s'adapter, et beaucoup étaient abandonnés, donc il y a eu des gros soucis avec ça. C'est d'abord aux États-Unis qu'il y a eu des interdictions d'importation, puis à nouveau en Europe. Et effectivement, le statut a changé récemment, puisque on l'a passé d'une protection déjà importante à une protection beaucoup plus importante en interdisant finalement son commerce en tant qu'animal sauvage.
En tant qu'animal sauvage, parce que on peut quand même acquérir un animal né en captivité.
Absolument. On a aujourd'hui l'interdiction d'avoir un animal sauvage et de l'acquérir, mais on peut avoir un animal qui a été élevé en captivité et donc avec l'être humain depuis le début.
Est-ce qu'un perroquet qui a été pris comme ça dans la nature peut, s'il survit au transport, peut s'adapter après à la captivité, peut devenir vraiment un animal de compagnie ?
Tous les animaux de ce type de complexité intellectuelle sont capables de s'adapter. Si on les traite bien, si on les soigne bien, oui, heureusement, on a quand même des perroquets sauvages qu'on a réussi à soigner, à détenir finalement dans des conditions relativement intéressantes pour eux de bien-être. En revanche, ils ont évidemment beaucoup plus de mal à s'adapter que des animaux qui seront élevés par l'être humain et qui sont déjà adaptés à l'être humain. La différence, ça sera un apprivoisement d'un côté et quelque chose qui sera déjà pré-induite de l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'on aura adapté un jeune depuis le début à avoir un être humain à côté de lui. C'est quand même beaucoup plus facile.
Alors, quelles sont les conséquences pratiques au point de vue de cette décision de la CITES pour tous ceux qui veulent, et on va parler de ces personnes, qui veulent un perroquet gris du Gabon?
Alors on ne peut acheter un perroquet que si on s'adresse à une animalerie ou un élevage.
Voilà, avec des papiers.
Avec des papiers, avec des certificats qui démontrent que c'est au moins une deuxième génération d'animal né en captivité. Mmh. Et vraiment avec des contrôles beaucoup plus importants sur les personnes qui les détiennent au départ.
D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un super parleur, hein, c'est un oiseau parleur, le gris du Gabon, et c'est souvent pour ça aussi qu'on est intéressé par cet animal, en se disant, on va discuter avec lui, ou voilà, on va voir. Et qu'est-ce que beaucoup de personnes donc rêvent d'avoir ce perroquet? Quelles sont les questions à se poser avant d'acquérir ce perroquet?
Alors déjà, est-ce qu'on va être capable de s'en occuper correctement? C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à une cinquantaine, voire une soixantaine d'années.
Ah oui,
faut prévoir.
Ils sont bien traités. Mmh. Hein, donc c'est vraiment un engagement. Quand on arrive à ce niveau d'engagement, on peut être jeune, hein, on peut avoir 20 ans, mais il faut quand même penser qu'on risque de décéder la plupart du temps avant son perroquet. C'est vraiment un engagement particulier de détenir un gris du Gabon. Il faut être sûr de pouvoir le faire.
Ou alors le prendre très jeune.
C'est vraiment le prendre très jeune. Après, c'est vraiment c'est la même chose. Hein. On doit être engagé et penser que la vie du perroquet va dépendre de la nôtre. Donc, pouvoir passer du temps avec lui, pouvoir le nourrir, c'est vraiment des soins répétés tous les jours, qui sont importants, beaucoup plus importants qu'avec un chien ou un chat, parce que c'est un individu qui demande de la communication, des réponses. Et vous parliez de la voix et de la façon de parler. Certains apprennent par imitation, on va dire, hein, sans mm-hmm. rentrer dans des détails spéciaux, quasiment tout seul, et puis d'autres, on a l'impression qu'ils vont dialoguer tout de suite. Non, ça s'apprend, c'est un apprentissage relativement long et qui tombe pas tout seul de soi. Donc ça peut être décevant de temps en temps, et certains ne voudront pas parler. Ça arrive, ça peut être rare. Ce qu'on aura en revanche, et qui peut être très embêtant, c'est des cris qui correspondent à une activité vocale normale du perroquet, qui se font entendre très tôt le matin et le soir. Et c'est vraiment des choses qui sont très sonores. Donc, il faut savoir aussi qu'il va y avoir cette chose-là à gérer pour son voisinage.
Voilà, c'est pas le petit chant du canari.
Ça crie fort.
Très fort.
Ça crie très fort.
Ah
très
bon
fort.
Ah oui, c'est. On peut pas rester à côté.
Vous l'avez jamais entendu. C'est vraiment très important et ça peut être dérangeant. Donc, pour les voisins aussi, bien évidemment.
Et c'est régulier, c'est-à-dire que ça peut être.
C'est régulier. Régulier, c'est du comportement tout à fait normal.
Tout à fait normal,
d'accord. Tôt le matin et puis à la tombée du jour, globalement. Donc, pas de différence de sexe. Hein. Les deux sexes crient et c'est vraiment un comportement tout à fait normal, hors de limitation de la voix.
D'accord.
Alors, vous consultez des perroquets qui présentent des troubles du comportement. Quels sont les problèmes les plus fréquents et les causes?
Alors, il y a des problèmes qui sont en fait caractéristiques d'un comportement normal de perroquet et qui ne sont pas bien vécues par les propriétaires. Donc, on en parlait à l'instant.
Les cris.
Voilà. Les destructions aussi, puisque on a quand même un animal qui se déplace, notamment en utilisant son bec, et qui peut être privé, on va dire, d'activités liées à la recherche de nourriture dans la nature. Habituellement, ils ouvrent des fruits, ils découpent un certain nombre de coques pour les obtenir. En captivité, la nourriture, elle est très accessible. Donc, finalement, se défoule ou utilise ses comportements habituels sur notre mobilier, notamment en bois. Donc, ça peut être très gênant pour les gens.
Ils sont ébénistes, c'est ça
normal.
Ils sont ébénistes.
Voilà, ça redessine un certain nombre de nos meubles et pas forcément de la façon dont les gens aimeraient que ce soit fait. Et il y a la propreté aussi. Vous avez des animaux qui défèquent un peu quand ça les arrange, on va dire, et du coup qui peuvent salir votre intérieur. Donc ça, c'est des problèmes normaux de perroquet, de comportements normaux. Et puis vous avez des problèmes anormaux qui sont l'agressivité, hein, comme chez nos carnivores de compagnie aussi, qui sont un certain nombre d'autres choses comme le piquage. Le piquage, c'est vraiment le perroquet qui s'arrache les plumes.
Ah oui, on en a déjà parlé il y a quelques temps de cela, oui.
Jusqu'à se rendre nu, hein, quand même.
C'est dingue,
ça. Se rendre nu, hein. Il ressemble à des petits poulets plumés, hein, dans ces cas-là.
Mais c'est dû à quoi? Un stress? C'est un stress, ça?
Alors, il y a énormément de choses. Si vous voulez faire une évaluation correcte du problème, il faut bien se rappeler que la première des causes à rechercher, c'est le régime alimentaire inadapté. Ça commence par là. Si on ne nourrit pas bien son perroquet, on peut avoir des problèmes de piquage. Si les conditions de détention sont inadaptées, si votre perroquet s'intoxique avec un certain nombre de toxiques de la maison, hein, de la fumée de cigarette tout simplement. Et puis quand on a évacué tout ça avec des maladies, de parasites, tout un tas de choses, d'autres plus compliquées, hein, des problèmes hépatiques, de thyroïde, etc. On arrive à la fin, quand on a éliminé tout ça, avec des problèmes de stress de l'oiseau et donc des choses qui viennent de l'extérieur du perroquet.
Et il y a des stress aussi. Enfin c'est quand même un animal très intelligent, le perroquet. Il fait partie des animaux les plus...
C'est un primate en termes de cerveau.
Ah oui. D'accord, ah oui.
Oui, il faut le voir comme ça, parce qu'on pense souvent que comme c'est un oiseau, on
il
a
est
une
cervelé.
Intelligence. Et,
oui.
Voilà, c'est ça. Ça a été très très mal considéré, les oiseaux, pour des raisons... complètement arbitraire. En fait, c'est un individu qui a un cerveau extrêmement développé et qui peut être l'équivalent d'un petit primate.
Tiens.
Donc vraiment un petit singe.
Cela dit, il y a d'autres oiseaux qui sont intelligents, hein, les corneilles, les corbeaux, etc.
Sûr, voilà,
hein, voilà c'est ça.
Ouais.
Juste avant d'accueillir Geoffrey qui a une question pour vous, docteur, un mot sur le budget global que représente un animal de la sorte. Ça coûte beaucoup d'argent tous les mois?
Ça coûte beaucoup d'argent. Je serais incapable de vous le chiffrer parce que je n'en ai pas.
Ouais.
Mais oui, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, sans parler des frais vétérinaires qui ne sont pas le plus gros poste, l'alimentation, c'est quand même assez important. On est obligé de fournir des graines, on est obligé de fournir des fruits frais. Enfin voilà, il y a un certain nombre de dépenses qu'il faut prendre en compte.
Et puis j'imagine qu'à l'achat, ça doit être un animal aussi qui doit être assez,
oui, tout à
assez
fait.
Coûteux.
Et là encore une fois, je n'ai aucune idée des prix, c'est très variable. Et c'est vrai que ça peut être lourd, oui, en termes de frais.
Ça peut transmettre des maladies ou pas, le perroquet ?
Ça peut transmettre des maladies qui sont dangereuses pour l'être humain. Donc oui, on a tout intérêt à faire très attention et avoir un perroquet qui est bien surveillé par le vétérinaire. Parce qu'on peut avoir des maladies graves. Donc c'est quand même important de faire cette recherche et ces détections. C'est pas anodin d'avoir un perroquet.
Geoffrey est avec nous. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour Geoffrey. Vous avez une question concernant le gris du Gabon, c'est ça?
Oui.
Allez-y.
On vous écoute.
Effectivement, vas-y, on a un. Bon, on en avait un autre avant. Bon, lui, il est mort il y a quelques années, il avait 30 ans. Et ce qui est bizarre, c'est que celui qu'elle avait avant, il n'a jamais parlé du tout. Et celui qu'elle a maintenant, il ne fait que parler, en fait.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Muriel ?
C'est bien que les individus sont très différents, hein, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que on a des caractères, des individus qui naissent avec des caractères différents, exactement comme chez nous. Et certains vont avoir envie de parler, d'autres pas du tout, alors qu'ils ont les capacités organiques, enfin leur physique, leur morphologie est adaptée à produire un langage.
Mm-hmm. Et il dit quoi, votre gris du Gabon, Geoffrey ?
Ah, c'est pas le mien, c'est ma voisine, je l'entends, il prononce le nom de sa maîtresse, du nom de l'ancien perroquet, il dit plein de trucs, lui.
Est-ce que vous l'entendez crier ?
Oui, je l'entends, oui, celui-là, je l'entends, oui.
Ouais, c'est ce qu'on
même l'autre avant, je l'entendais aussi, j'entendais faire un cri, mais je n'entendais jamais parler, du coup.
D'accord.
Ouais, et voilà.
Ça doit être impressionnant, hein, quand on n'a pas l'habitude de voir un tel animal parler aussi bien, enfin aussi distinctement, ça doit être assez impressionnant. Geoffrey, merci beaucoup.
Geoffrey, merci. Et Muriel, on parlait de l'espérance de vie du perroquet, comme quoi il pouvait vivre jusqu'à 50 ans. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup quand même de perroquets qui changent de propriétaire, parce que certains aussi sont dépassés par les événements aussi.
Est-ce que
c'est traumatisant pour un perroquet de changer de propriétaire ?
Ça dépend chez qui on arrive. C'est toujours pareil.
Ah, s'il est mieux que le précédent, peut-être que c'est moins traumatisant.
Oui, c'est ça. Il faut penser que c'est quand même un animal qui s'adapte. C'est un animal qui a des capacités d'apprentissage énormes et donc des capacités d'adaptation. En revanche, c'est quand même un individu qui est néophobique, donc toute la nouveauté va le stresser, va lui faire peur. Donc, même s'il est capable de s'adapter, étant donné son cerveau, on a quand même un refus de tout ce qui va être changement d'environnement, de rituel, etc. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour ça. Il faut éviter de trop les changer, ou en tout cas, essayer de reproduire ce qu'on avait avant dans l'autre maison, si c'était bien fait.
Très bien. Merci beaucoup, Muriel.
Merci Muriel.
Je vous en prie. Donc, à bientôt.
À bientôt. Muriel Lannot, vétérinaire comportementaliste et qui est spécialisée aussi dans le comportement des perroquets.
Et vous qui nous écoutez, si vous êtes par exemple intéressé par, pourquoi pas, l'acquisition d'un perroquet, hein, suivez, on va dire, les filières, les
ah oui, mais voilà, bien sûr, maintenant c'est voilà,
les réseaux officiels, hein.
Bien sûr, pour éviter les trafics d'animaux sauvages, il y en a beaucoup, et bien sûr, les perroquets font partie de ces trafics
donc,
d'animaux sauvages.
D'élevage.
Et
on
puis,
est d'accord.
Hein. Réfléchissez bien, parce qu'il y a beaucoup d'abandons de perroquets. Donc voilà, c'est vraiment un animal particulier. Ce n'est pas comme un chat ou un chien ou un canari même. C'est très particulier et l'engagement est très fort.
Dans un instant, Laetitia, après le perroquet, on parlera d'un animal un petit peu plus poilu et un petit peu plus gros. Il s'agit de l'ours. Le 3216 ou animaux@rmc.fr. Vous avez cru qu'on allait parler de Jean-Luc Moreau, non ? Non, quand même pas.
J'y ai pensé un quart de seconde.
Oui, j'ai vu dans votre regard, mais non. À tout de suite, c'était RMC.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous avez raté quand même pas mal de bons rendez-vous dans cette émission. C'est pour ça que nous vous invitons tout à l'heure à retrouver en téléchargement le podcast de notre rendez-vous animaux. Vous pourrez retrouver cette association au bonheur des chats. On a évoqué tout à l'heure les renards aussi. Et puis à l'instant, le perroquet gris du Gabon, qu'on peut apprivoiser, mais sous certaines conditions, parce que c'est un animal quand même assez particulier.
Et bien sûr, et très intelligent.
Et en plus, voilà. Laetitia, pour terminer, on va s'intéresser à l'exposition Espèces d'ours maintenant.
Oui, c'est une exposition qui est organisée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et actuellement au Jardin des Plantes, et ce jusqu'au 19 juin 2017. Vous avez le temps, mais ce qui est bien, c'est quand même que c'est les vacances, là, avec les enfants.
On peut en profiter,
les enfants adorent les animaux. Et nous sommes avec Didier Julien Laferrière, qui est concepteur et muséographe de l'exposition. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Alors, quand on évoque les ours, on pense à l'ours blanc, l'ours polaire, l'ours brun, mais peu de personnes savent quand même qu'il existe 8 espèces d'ours différentes qui vivent sur notre planète. Alors, est-ce que les ours vivent sur tous les continents ?
Alors, les ours, effectivement, il y en a 8 espèces, certaines peu connues, comme l'ours malais ou l'ours lépu, qu'on cherche à faire découvrir, et ils vivent essentiellement dans l'hémisphère nord.
D'accord.
C'est une particularité, il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas en Océanie, il y en a un en Amérique du Sud, mais c'est surtout des animaux nordiques.
D'accord. Est-ce que, on sait que l'ours polaire est menacé dans la nature, est-ce que tous les ours sont menacés ?
Sur les 8 espèces, en fait, 6 sont plus ou moins menacées. Dans cette famille, il y a par exemple le grand panda, c'est le symbole finalement, ou un symbole des espèces menacées.
Qui fait partie des ursidés.
Qui fait partie des ursidés, effectivement, on ne le sait pas forcément, oui. Et on peut le découvrir de cette façon en visitant l'exposition. Et donc lui est gravement menacé, il y en a à peu près 2000 dans la nature, donc c'est vraiment très peu. Mais quand même, il y a un petit espoir pour cet animal, puisque récemment il a été, si on peut dire, rétrogradé de dangerosité grâce aux efforts de la Chine et des autorités chinoises pour restaurer leur habitat en particulier.
Ah oui. Il est tellement emblématique aussi pour la Chine.
Oui, bien sûr, c'est un symbole du pays, et à l'époque historique, on va dire, il était offert par les empereurs chinois à leurs alliés politiques, par exemple.
Oui.
Et
oui.
C'est une tradition, en fait, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui.
Et oui.
Ça doit être étonnant, quand même, de recevoir un ours, là. J'espère qu'ils étaient prévenus, un peu. Parce que...
C'est un petit peu encombrant.
Oui, c'est un peu encombrant.
Il faut prévoir
ouais.
la place qui va avec, mais voilà, ça se fait.
Et concernant les autres espèces ?
Donc on a par exemple l'ours lépu qui vit en Inde, c'est le balou du livre de la jungle, on le sait pas forcément ça aussi, et c'est un animal très particulier qui a des grandes lèvres, comme son nom l'indique, et qui se nourrit essentiellement d'insectes.
Ah oui, d'accord. Un ours qui mange que des insectes.
Qui mange principalement des insectes. La plupart des ours sont omnivores, ils mangent un peu de tout, oui. Mais certains, au fil de leur évolution, de leur histoire, sont devenus très spécialisés. Pour en revenir au grand panda, par exemple, on sait qu'il ne mange pratiquement que des feuilles de bambou.
Voilà.
C'est vraiment bizarre, un carnivore qui est devenu omnivore, en fait.
C'est un peu ça. Alors, la représentation de l'ours dans l'imaginaire de l'homme est assez ambiguë, c'est-à-dire que parfois, l'ours, c'est un nounours, un nounours en peluche, pour lequel on fond, bien sûr. Et parfois, il est représenté comme une bête féroce. Pourquoi cette double image ?
Alors, c'est vraiment une particularité de ces animaux. Ça vient sans doute de leur physique, finalement. Leur allure qui fait qu'il ressemble à nous finalement. Un ours peut se dresser comme nous, et quand il est debout, c'est une espèce de d'homme, mais en plus fort, en plus velu, effectivement, et ça représente en quelque sorte notre part de sauvagerie. Et c'est comme ça que des sentiments à la fois de respect et de crainte et de perception d'un ennemi finalement se sont forgés. Et puis de l'autre côté, comme vous le disiez, il y a le nounours, mm-hmm. qui est en fait quelque chose d'assez récent. C'est une création, si on peut dire, du début du XXe siècle, et qui a émergé en même temps et par hasard aux États-Unis et en Allemagne.
Et je crois que c'est dû quand même à Roosevelt, l'ancien président des États-Unis.
Et ça, c'est une des deux histoires, justement, une origine de cet animal donc très attachant qui a conquis très vite l'univers enfantin.
Oui.
Et en fait, l'histoire, effectivement, c'est une légende qui a été un petit peu enjolivée.
Oui, bah oui, on est dans le film américain, là.
Voilà. Et en fait, qui raconte que le président Roosevelt, un beau jour, chassait, il était désespérément bredouille. On lui a mis un ours dans les pattes en lui disant, monsieur le président, tirez cet ours, comme ça vous serez pas ridiculisé. Et le président Roosevelt, indigné, a épargné l'animal, bien sûr.
Oui.
C'est arrivé aux oreilles avisées d'un fabricant de jouets qui s'est emparé de cette histoire, qui a fabriqué un ours pour Noël, puisque c'était au mois de novembre 1902, précisément.
Oui.
Et ce jouet ours a eu un succès immédiat.
Ah oui.
Et voilà comment
c'est l'ours Teddy, non ?
Voilà comment le Teddy Bear, l'ours voilà. Teddy est né, qui a le nom du président Theodore Roosevelt, avec son accord, puisqu'on a bien pris soin de lui demander son avis quand même.
Très bien. Merci beaucoup Didier. Donc cette exposition espèce d'ours jusqu'en juin prochain. Hein,
voilà. Alors c'est pour toute la famille, hein. Tout le monde peut y aller.
Oui, tout le monde peut y aller. Ça s'adresse à la famille. Il y a toute une variété de dispositifs, de jeux, de films, de petites manips, donc vraiment les enfants ne s'ennuieront pas, d'autant plus que c'est un sujet vraiment attachant, si on peut dire. Hein.
Bah, c'est sûr, c'est
très
sûr.
Bien. Voilà. Merci encore.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci, bonne journée.
Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLCA de ce dimanche matin.
Et pour une fois, c'est un cheval.
C'est un cheval. On aurait été, franchement, très hétéroclite hein, ce dimanche matin. Et donc là, on a trouvé un cheval qui fête son anniversaire et qui souffle les bougies sur son gâteau.
Oui, et je pense que c'était pas prévu quand ils ont filmé.
Mais
ça le fait. Et en plus, il rigole après.
À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, cette petite vidéo très drôle. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine.
Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Après la météo, les infos, à tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.